France Culture, il est 18h, c'est l'heure du journal. Antoine Marette, bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un plan de départ volontaire dans la fonction publique, c'est ce que vient de proposer Gérald Darmanin. Il souhaite ainsi supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Faible mobilisation en France contre la réforme de l'université et du bac. Quelques milliers de personnes ont défilé un peu partout dans le pays. Quand Facebook censure une œuvre d'art, le réseau social devant la justice pour avoir supprimé le compte d'un enseignant qui avait publié une photo du tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. Et puis à la fin de cette édition, vous saurez tout ou presque sur ce qu'est une innovation de rupture grâce au dossier signé Marie Viennot. C'est une annonce qui fera sans doute date. Le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin qui annoncent côte à côte un plan de départ dans la fonction publique. Objectif, supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. L'exécutif souhaite également avoir largement recours aux contractuels. Un plan de départ volontaire comme dans le privé. Le sujet est éminemment sensible. Le gouvernement le sait bien. Il va ouvrir dans les prochains jours une grande concertation avec les syndicats de la fonction publique, Anne Lorchois.
Une concertation que les syndicats auraient bien aimé avoir avant ces annonces, à laquelle ils s'attendaient à demi, mais qu'ils prennent tout de même comme une déclaration de guerre. Ce plan de départ volontaire, ouvert aux fonctionnaires dont la sensibilité serait heurtée par la réforme de l'État en cours, s'accompagnera en outre d'un recours beaucoup plus large aux contractuels et d'un développement sensible de la rémunération au mérite, un serpent de mer. Et puis, Édouard Philippe l'avait déjà évoqué, et Emmanuel Macron avec lui, la concertation qui va s'ouvrir visera aussi à envisager quelles missions du service public pourraient être privatisées et lesquelles pourraient être abandonnées. Alors il y avait eu la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques sous Nicolas Sarkozy, puis la MAP, la Modernisation de l'Action Publique sous François Hollande. Désormais, c'est donc le programme Action Publique 2022 qui se défend d'une logique comptable, mais dont l'objectif est bien chiffré, 120 000 fonctionnaires de moins d'ici à la fin du quinquennat et une économie de 25 milliards d'euros des dépenses de l'État. L'angle n'est pas seulement budgétaire, insiste Édouard Philippe, il est aussi question de moderniser le service rendu aux usagers. Le plan comprend en effet tout un volet de numérisation des démarches administratives. Mais pourquoi faudrait-il aujourd'hui moins d'État et moins de services publics, se demande la secrétaire générale de la FSU, Bernadette Groison, qui estime qu'on assiste là à la fin brutale de la fonction publique. À FO, on rappelle que jusqu'à présent, les fonctionnaires sont sous statut et non sous contrat. Négocier un plan de départ volontaire comme dans le privé, ça risque d'être très compliqué. D'ailleurs, tout fonctionnaire mécontent a déjà la possibilité de s'en aller.
Journée des Insoumis à l'Assemblée nationale. Ils ont pu présenter dans l'hémicycle 4 propositions de loi. C'est ce qu'on appelle la niche des groupes parlementaires. Ils ont notamment évoqué le droit d'accès à l'eau, le droit de mourir dans la dignité et la reconnaissance du burn-out, autrement dit le syndrome d'épuisement professionnel. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Vous vous trouviez dans l'hémicycle et sans surprise, la proposition a été rejetée.
Aucun suspense, effectivement. Une confirmation de la ligne de la majorité En Marche, selon le député communiste Sébastien Jumel.
En Marche est pris en flagrant délit d'obstruction. Lorsqu'il s'agit de câliner la finance, ils mettent beaucoup d'enthousiasme et d'empressement. Lorsqu'il s'agit de reconnaître une réalité humaine, celle d'un système qui broie des vies et qui fait perdre le sens du travail à grand nombre de nos concitoyens, alors il n'y a plus personne. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà encore l'illustration d'un gouvernement qui, lorsqu'il s'agit de mettre à contribution les pollueurs de cerveau, ceux qui broient des vies, eh bien, est dans le laisser-faire et le laisser-passer. C'est ce qu'on appelle le libéralisme.
Une mission d'information est en cours, répond la députée LREM Caroline Janvier.
Une collègue députée de la commission des affaires sociales travaille déjà depuis 2 mois sur une mission. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très abouti sur cette question.
Dans l'opposition de droite aussi, ce rejet pur et simple du texte sans débat est vertement critiqué par Stéphane Viry, député Les Républicains des Vosges.
Donc moi, je déplore cette pratique qui consiste aujourd'hui à étouffer un débat, à se planquer derrière une mission d'information.
Vous demandez également une évaluation du coût du burn-out sur les finances de la sécurité sociale ?
Bah écoutez, oui. On sait très bien que la pathologie de l'épuisement psychique due à des faits de travail existe. Pour le moment, c'est pris en charge par la branche maladie de la CPAM. Alors que dès lors qu'il s'agit d'une maladie professionnelle, ce n'est pas à la branche maladie de le supporter, c'est-à-dire que ce n'est pas au titre de la solidarité nationale, mais c'est à une autre branche de supporter les conséquences liées à l'activité professionnelle.
Et là, le fait que La République En Marche refuse même cette évaluation-là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
C'est un bel enterrement de première classe, parce que là, il s'agit, c'est pas de dire pour ou contre, il s'agit effectivement d'aller à la recherche d'informations qui permettent par la suite de prendre des bonnes décisions. Donc c'est un peu à l'avenant de ce que l'on voit depuis 6 mois au sein de cet hémicycle. Je déplore cette façon de faire qui, in fine, abaisse le Parlement.
La mission d'information sur le burn-out doit rendre ses conclusions en avril prochain.
À noter que les Insoumis ont également proposé de faire un référendum sur la CEITA. Faible mobilisation en France contre la réforme de l'université et du bac. Une dizaine de lycées sont perturbés à Paris et quelques milliers de personnes ont défilé un peu partout dans le pays. Illustration à Marseille, Olivier Martoc se trouvait dans le cortège qui comptait moins d'un millier de manifestants. Ambiance détendue et bon enfant.
En tête de cortège, les lycéens. Ils ne veulent pas du nouveau système d'inscription à la fac. Gaëla est en terminale.
On n'est pas des putains de fainéants, pardon pour le mot. Déjà que c'était compliqué avec un bébé, tout ça. Mais là, ils se compliquent encore la tâche. Et bah après, bah nous, on se retrouve avec notre bac. Mais le bac, c'est bien beau, mais sans ça, bah...
Derrière les étudiants, leurs revendications sont plus politiques au sens philosophique. Ilien Constant appartient aux jeunesses communistes.
Vraiment, le plus gros blocage, c'est sur la sélection. Ça fait depuis mai 68, en fait. Ça fait 50 ans qu'on empêche absolument la sélection avec même le slogan « sélection piège à con ». C'est vraiment contre les principes de l'éducation pour tous, quoi.
Les profs ferment la marche. Là, c'est le manque de moyens qui clairement mobilise. Sébastien Puch, secrétaire FO, lycée-collège.
Ça s'inscrit dans l'austérité, puisque le ministre Blanquer a annoncé qu'effectivement, la résultante de cette réforme du lycée, c'était abaisser le coût. Aujourd'hui, on constate que de partout, dans les EHPAD, les gardiens de prison, dans les hôpitaux, les enseignants, on n'en peut plus. C'est une même politique par laquelle il faut mettre un terme, ça gronde.
Au final, un défilé au pas de course de la gare Saint-Charles au Vieux-Port, dans une ambiance bon enfant.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, auditionnée cet après-midi au Sénat par la Commission des lois, elle doit s'exprimer sur la crise que traversent les prisons après 2 semaines de mobilisation des surveillants pénitentiaires. C'est dans ce contexte, au même moment, que près de 500 membres du personnel du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et probation, manifestaient à Paris à l'appel de la CGT. Ces agents sont chargés de la réinsertion des personnes condamnées, qu'elles soient libres ou détenues. Le personnel du SPIP demande plus de moyens pour la réinsertion et une réforme statutaire, car il se sent oublié dans ce conflit entre les surveillants et l'État, Mélanie Juvet.
Oui, la principale revendication du syndicat, c'est l'application d'une réforme statutaire des SPIP pour passer en catégorie A du service public. Une réforme qui devait entrer en vigueur aujourd'hui, mais qui a été reportée. Les manifestants demandent par ailleurs plus de budget pour la réinsertion et veulent doubler les effectifs. Explication de Sarah Silva Descas, la secrétaire nationale de la CGT Insertion Probation.
S'il fallait prendre en charge le nombre de personnes actuelles, il faudrait doubler les effectifs. On est actuellement 3000, il faudrait 3000 recrutements. Puisqu'actuellement, les travailleurs sociaux prennent en charge entre 100 et 120 personnes condamnées, ce qui est énorme. Les recommandations européennes recommandent plutôt autour de 50 personnes. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans ses promesses électorales, avait parlé de 40 personnes à prendre en charge. Voilà, et on est rarement entendu, toujours oublié, laissé de côté dans nos revendications.
Le syndicat a soutenu pleinement le mouvement de leurs collègues surveillants, mais souhaite lui aussi que ses revendications soient entendues dans les grands chantiers de la justice.
Il faut bien comprendre pour les pouvoirs publics que s'ils comptent mettre en place une réforme de la politique pénale pour faire en sorte que justement dans les prisons ça se passe mieux, qu'il y ait moins de surpopulation carcérale, qu'il y ait moins de tensions, moins de violence, ils ne peuvent pas le faire sans les personnels du SPIP parce qu'on est chargé de la réinsertion et que si on veut lutter efficacement contre la récidive, il faut aussi prendre en charge la question de la réinsertion des personnes condamnées.
La CGT demande une politique pénale audacieuse, notamment la sortie d'une politique du tout carcéral, facteur de la surpopulation en prison, selon lui, pour privilégier des aménagements de peine.
Merci Mélanie Juvet. Quand Facebook censure une œuvre d'art, l'œuvre d'art c'est l'origine du monde de Gustave Courbet. Il représente le sexe et le torse d'une femme allongée sur un lit, les cuisses écartées. Trop suggestif pour le réseau social qui a supprimé le compte d'un enseignant qui avait publié une image de ce tableau sur son mur. L'homme a donc assigné Facebook en justice en 2011. Et après plusieurs recours pour tenter de faire déclarer la justice française incompétente, sans succès, Facebook a donc été jugé dans cette affaire. Cette cet après-midi au tribunal de grande instance de Paris, Fiona Mogadam.
Pour l'enseignant viré de Facebook, c'est bien de censure dont il est question ici. Alors oui, Facebook n'accepte pas la nudité, mais la nudité et sa représentation sont deux choses différentes, argue l'une des avocates du professeur. Son autre avocat estime que les modérateurs du réseau social manquent de culture pour confondre pornographie et œuvre d'art. C'est une attaque à la liberté d'expression, selon lui. Pour Facebook, le débat est tout autre. Les deux avocates de l'entreprise justifient la suspension du compte de l'enseignant, non pas à cause de la fameuse publication, mais parce qu'il utilisait un pseudo et ce n'est pas autorisé selon les conditions générales de Facebook. C'est pour attirer l'attention que le demandeur invoque la liberté d'expression, estiment les avocates du réseau social. Et en plus, selon elles, l'utilisateur a ouvert un nouveau compte après sa suspension et il a publié à nouveau l'origine du monde sans que ce deuxième compte soit suspendu. Pour maître Stéphane Cotino, l'avocat de l'enseignant, l'argument du pseudonyme, c'est de la mauvaise foi de la part de Facebook.
Pendant 2 ans et demi, il a usé de ce compte et subitement, il poste l'origine du monde, il est déconnecté. Il faudrait croire Facebook lorsqu'elle nous dit qu'il a été censuré, déconnecté pour d'autres raisons. Mon client est toujours très en colère et il est encore plus en colère que Facebook ne débatte pas du fond. C'est-à-dire qu'on ne débatte pas, ça serait un débat intéressant. C'est quoi la censure? C'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi l'art? C'est quoi la nudité? Et surtout, il ne comprend pas pourquoi on n'a pas réouvert ce compte. Le procès aurait été terminé.
Mais les avocates du réseau social n'ont pas souhaité s'exprimer. Dans un communiqué, Facebook déclare que l'origine du monde est un tableau extrêmement significatif qui a parfaitement sa place sur Facebook. Le jugement a été mis en délibéré au 15 mars prochain.
Merci Fiona Mogadam. L'état de catastrophe naturelle reconnu jeudi pour 44 communes frappées en janvier par les tempêtes Eleanor en métropole et Bergita à La Réunion. C'est ce que vient d'annoncer le ministère de l'Intérieur. L'état de catastrophe naturelle permet pour les communes et les habitants la prise en charge des dégâts causés aux biens assurés. Emmanuel Macron à Tunis. Le chef de l'État s'est exprimé devant les parlementaires réunis à l'Assemblée. Comme hier, il a fait de la défense du modèle tunisien le fil conducteur de son discours. Et parmi les personnes qui ont accompagné Emmanuel Macron se trouve Maha Issaoui. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Cette franco-tunisienne, en fait, a rencontré la semaine dernière le chef de l'État dans les rues de Clermont-Ferrand. Et du coup, Emmanuel Macron lui a proposé de la suivre lors de son voyage en Tunisie. Notre envoyée spéciale Isabelle Labéry l'a rencontrée.
L'histoire de Maha commence à Sidi Bouzid, dans le sud déshérité de la Tunisie. En décembre 2010, la jeune étudiante est l'une des premières à diffuser les images de la révolution sur les réseaux sociaux. Fille d'un chauffeur routier et d'une mère au foyer, Maha obtient de la France une bourse de mérite et débarque à Clermont-Ferrand, où elle est aujourd'hui doctorante dans un institut de recherche.
Vraiment, je représente la Tunisie et la France. Sachant que ça fait juste 6 ans que je suis en France, je suis franco-tunisienne, j'ai été naturalisée l'année dernière, mais j'ai les deux cultures maintenant.
C'est le hasard qui place Emmanuel Macron sur son chemin. Maha rencontre le chef de l'État dans les rues de Clermont-Ferrand à la sortie d'une conférence sur l'égalité des chances qu'elle vient de tenir avec le préfet.
Et le préfet m'a appelé. Il m'a dit venez, je vais vous présenter au président. Il a dit, elle fait avec nous, elle est engagée dans l'égalité femmes et hommes. Mais moi, j'ai dit, pas que, je suis aussi tunisienne. Et de là, il m'a dit, est-ce que ça vous dit de venir avec nous? J'ai dit oui, je ne vais pas refuser non plus. C'était comme un conte de fées.
La jeune chercheuse s'adresse aujourd'hui à la jeunesse de son pays.
Moi, je suis toujours fière de dire... en Tunisie, au moins, on a la liberté d'expression. Ça, j'ai rêvé de ça. Après, c'est vrai, il y a la crise économique. Même des Tunisiens, clairement, ils me disent toujours « Mais Maha, le peuple ne peut pas manger que de la liberté. » Je vais envoyer un message optimiste. Parce que moi, je suis partie de zéro. Vraiment. À chaque fois, je mets un objectif dans ma vie... Je fais tout pour l'atteindre. C'est aux jeunes qui se battent pour leur avenir.
Notre révolution est encore inachevée, dit Maha, mais la Tunisie doit oser croire encore en ses rêves.
Au Kenya, la justice vient au secours des médias. La Haute Cour a ordonné aujourd'hui la reprise des programmes de 3 grandes chaînes de télévision privées. Leur signal avait été coupé depuis mardi, jour de l'investiture parallèle de l'opposant historique Raila Odinga, qui affirme toujours avoir remporté la présidentielle d'août. Suite à une requête déposée par un activiste kényan, le juge a suspendu la coupure du signal jusqu'à ce que l'affaire soit entendue le 14 février. À Nairobi, le récit de Laure Broulard.
Selon l'activiste Okia Omtata, la coupure des médias est extrêmement arbitraire et disproportionnée. Sa requête fait suite à une véritable vague de contestation après l'interdiction de la transmission de NTV, Citizen TV et KTN. Tandis que le Conseil des médias dénonce la plus grande attaque à la liberté de la presse de l'histoire récente du Kenya, l'ONG Human Rights Watch affirme que le pays se trouve sur une pente glissante en termes de droits de l'homme. D'autres n'hésitent pas à faire référence aux heures sombres de la dictature de Daniel Arap Moi. En début de semaine déjà, le président de la guilde des rédacteurs en chef dénonçait des menaces de la part du gouvernement, menaces qui ont été mises à exécution. Pour le ministre de l'Intérieur, les chaînes de télévision se sont rendues complices d'une entreprise criminelle en retransmettant en direct la prestation de serment parallèle de Raila Odinga. Il avait annoncé hier que leur signal resterait coupé jusqu'à la fin d'une vaste enquête. Peu après, un des principaux groupes de presse du pays annonçait que des policiers étaient postés autour de son siège. Reste à savoir quelle sera la réponse du gouvernement après cette décision de justice. Ce soir, le signal des trois chaînes de télévision n'a en tout cas toujours pas été rétabli.
C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron, un fonds pour l'innovation. À la mi-janvier, ce fonds a reçu en dotation la somme de 10 milliards d'euros. Son fonctionnement doit être précisé dans les semaines qui viennent. Et aujourd'hui, la Banque publique d'investissement a plaidé pour qu'une part importante des ressources de ce fonds soit dédiée aux innovations de rupture. Alors, c'est quoi une innovation de rupture? Quels sont les risques, les opportunités à prendre? Pour le comprendre, nous nous arrêtons ce soir, Marie Viennot, sur les fintech. C'est ce petit nom donné aux entreprises innovantes dans la finance.
Oui, car la transformation digitale du monde de la finance est bien en marche et elle se fait essentiellement via ces nouveaux entrants, start-up ou entreprises bien plus grandes. Leur objectif n'est pas d'optimiser ce qui existe déjà, mais de casser les codes de la relation banque-client, changer les usages et à terme même le modèle économique. Voilà pourquoi on parle d'innovation de rupture. Alors en quoi ça peut consister concrètement? Réponse avec Johan Burkovic, PDG de Bankin, rencontré au salon des FinTech qui avait lieu cette semaine à Paris.
Nous, on crée des services alternatifs. Par exemple, on crée une application qui facilite la gestion d'argent. Cette application est directement connectée à votre banque et va ensuite rapatrier la donnée pour vous la représenter d'une manière compréhensible. Par exemple, on vous donne l'évolution de vos budgets. Sans aucun effort, vous n'avez pas à identifier chaque transaction qui est pour un logement, pour un transport, c'est fait automatiquement. Vous avez des alertes pour éviter les situations à risque. Par exemple, un risque de découvert, on vous alerte via une notification. Une transaction anormalement levée, par exemple.
Alors pour faire tout cela, les fintechs ont besoin d'accéder facilement à nos données bancaires et preuve de l'intérêt que les législateurs leur portent. Depuis le 13 janvier dernier, une directive sur les services de paiement est entrée en vigueur et régularise cet accès.
C'est un big bang puisque ça peut servir par exemple pour les acteurs du crédit, pour connaître la situation financière. Aujourd'hui, vous uploadez un PDF, personne du crédit les analyse à la main. Avec cette directive, vous pourrez dire « je synchronise mes comptes » et la donnée va arriver directement chez le fournisseur de crédit avec un scoring qui se fait en temps réel.
Alors le scoring, c'est l'analyse du risque client. Dans l'ancien monde, c'est un humain qui le fait. Dans le monde de demain, ce sera une machine et ce sera plus rapide. Alors pour le client, on comprend l'avantage. Au lieu d'attendre une semaine, voire plus, la réponse à sa demande de crédit, il l'aura en quelques heures. Mais qui dit innovation de rupture ou disruption, comme on dit en ce moment, dit aussi licenciement. Wim Meij, président de la Fédération des banques européennes.
Comme dans les télécoms, comme dans tous les secteurs qui ont connu la disruption, on a besoin des gens, mais il faut qu'ils aient les bonnes compétences numériques. La Commission européenne a lancé une coalition pour des emplois et des compétences numériques et nous en faisons partie avec les syndicats. Ce sera déterminant pour l'avenir, mais il faudra clairement se former toute sa vie.
Les robots peuvent faire banquier? Alors la réponse est oui, et des fintechs cherchent justement à améliorer ce qu'on appelle des robots advisors, cyberconseillers clientèle si vous voulez. Rien de très neuf finalement, cela fait un moment dans l'univers bancaire que des algorithmes remplacent ça et là des traders. L'emploi n'est donc pas ce qui inquiète le représentant des banques européennes, Wim Meij, mais c'est la sécurité.
Chaque minute, des banques sont attaquées partout. Les criminels sont toujours plus intelligents. Alors, si vous ouvrez les services de paiement à des tiers, vous courez un risque plus grand, c'est juste logique. plus il y a de parties prenantes, plus il y a de criminels potentiels et de risques d'accident.
Alors en ce moment ont lieu justement des négociations entre banques, fintech et autorités de régulation pour savoir comment façonner les tuyaux qui les relieront à l'avenir, avec à la clé beaucoup de lobbying, car des enjeux de pouvoir, de marché, mais aussi de protection de nos données personnelles. L'innovation de rupture, c'est souvent aussi une porte ouverte vers cette question. Et cela illustre donc à quel point nous sommes tous concernés par les choix que fera ce fonds pour l'innovation.
Merci à vous Marie Viennot. Demain, il va neiger sur l'est du pays, de la pluie dans le nord, le centre et le sud-ouest, ailleurs du soleil. Température basse l'après-midi, 1 degré seulement à Reims, 5 à Paris, 10 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Stanislas Vazak.